Alors, on est dans le cours Connaître Dieu et on est à la leçon 1. On va commencer avec un mot de prière. Mais Père éternel, nous voulons te remercier pour ce cours, Seigneur. Je veux te remercier pour ce livre qui a été tellement important dans ma marche chrétienne et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir le lire encore une fois. Je ne sais pas, ça fait combien de fois maintenant, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer dans ce cours. On n'est pas rassemblés ici simplement pour apprendre des choses sur toi, mais pour te connaître toi, Seigneur. Te rencontrer toi, être émerveillé par ta beauté, par ton amour, par ta gloire, Seigneur. Émerveillé par ton amour, ta miséricorde, ta patience. Et Seigneur, que cette fraîche illumination de nos cœurs, cette fraîche révélation vienne bouleverser nos vies, nous amener là où tu veux que nous soyons dans nos cœurs, Seigneur, quotidiennement, émerveillés par toi, confiants en toi, reposés en toi, Seigneur, pour vivre dans cette vie qui est, comme le disait le docteur Welch en fin de semaine, souvent si difficile. Et on a besoin, Seigneur, de te connaître. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc, comme je le mentionnais, on est dans le cours Connaître Dieu, la leçon 1. On va faire circuler ce matin une tablette. Je vais mettre un crayon avec. Et pour les deux premières semaines, je vais prendre les présences. C'est juste pour se donner une idée à peu près les gens, combien est-ce qu'on a de personnes qui prennent le cours. Mais dans mon cas, c'est d'autant plus important que si vous mettez votre adresse courriel, vous allez être ajouté une liste d'envoi et puis vous allez recevoir les cours aussi en format PDF à l'avance. D'accord? Il y en a beaucoup qui préfèrent ça. Et probablement la semaine prochaine, je vais avoir à peu près autant de notes. Puis dans deux semaines, je vérifierai combien on aurait besoin d'avoir de copies papier, en gros, pour bien vous servir. Plusieurs d'entre vous arrivez ici avec vos appareils mobiles ou votre ordinateur. Alors, on va juste faire circuler ça. Puis juste mettre votre nom, votre adresse courriel, si vous voulez être sur la liste d'envoi. Si vous ne mettez pas d'adresse courriel lisible, comme le dit Manon, bien, vous ne serez pas ajouté à la liste d'envoi. D'accord? Ce qu'on va faire dans ce cours-là, c'est qu'on va traverser ensemble un classique. Il y a toutes sortes de définitions à ce qu'est un classique, mais une définition commune ou un élément commun au classique, c'est qu'ils ont eu un impact, ils ont été appréciés, ils ont été admirés par un grand nombre de personnes. Souvent, lorsqu'on pense au classique, on pense à des écrits qui datent, qui vont remonter à plusieurs siècles. Un classique du christianisme, par exemple, ce serait les Confessions de Saint-Augustin. C'est un classique du christianisme, d'accord? Mais il y a aussi parfois des classiques contemporains. Et ce sont des livres qui, dans leur propre génération, ont un impact tellement puissant qu'ils s'imposent et déjà, du vivant même de l'auteur, on sait que ces livres-là vont laisser une trace dans l'histoire, vont laisser une trace dans la littérature et, dans le sujet qui nous intéresse, vont laisser une trace dans l'histoire du christianisme. Ce livre-là, personnellement, c'est un classique dans ma vie aussi, comme je l'ai dit dans la prière. C'est un des premiers livres que j'ai lu après ma conversion, il y a plus de 20 ans. Et c'est un livre qui m'a aidé à saisir vraiment la personne de Dieu. Malgré le fait que j'avais été élevé dans l'Église, d'accord, à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à fréquenter l'Église, j'ai fait mon école du dimanche, j'apprenais mes versets par cœur. Vers l'âge de 13 ans, j'ai complètement abandonné l'Église, mais j'avais déjà un bon bagage. Lorsque je me suis converti, j'ai vu très, très rapidement, à l'intérieur de 6 mois, je jasais avec des gens, puis il y avait des adultes, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient au Seigneur, puis ma culture biblique était déjà plus approfondie, plus riche qu'eux. Alors, j'avais déjà un bon bagage. Mais quand je suis rentré dans ce livre-là, M. Packer m'a amené dans une autre dimension au niveau de la révélation de Dieu et connaître Dieu personnellement et comment la théologie doit passer de l'information sur une personne pour aller vers une rencontre avec une personne. Et c'est ça que ce livre-là m'a apporté. Le livre est solide, il est bien fait. Une autre manière de le présenter, ce serait de dire que c'est une introduction à la théologie. D'accord? Parce qu'en même temps, c'est ça. On va parler de la personne de Dieu dans ses attributs, ses qualités, tout ça. Donc, on pourrait dire aussi que c'est une introduction à la théologie, mais le livre n'a pas été conçu comme ça. Le livre a été conçu comme une série d'articles au départ qui a été publié pour adresser un problème majeur chez les chrétiens évangéliques, c'est-à-dire celui que les chrétiens ne connaissent pas personnellement Dieu et que malgré toutes les informations qu'ils ont reçues sur Dieu, à travers ça, ils n'ont pas rencontré Dieu. Et donc, ça donne des chrétiens qui pourraient dire bien des choses sur Dieu, mais dans leur vécu quotidien, tu ne sens pas la force, la fermeté, tu ne sens pas qu'ils ont les deux pieds sur le roc. Tu sens qu'ils ont les deux pieds dans la vase et leur foi est chambranlante, même si, en leur posant des questions, ils pourraient donner les bonnes réponses. Et c'est ça qui a poussé G.I. Packer en 72 à publier cet ouvrage où il voulait vraiment aller adresser un problème majeur chez les évangéliques. Moi, personnellement, si je me fiais juste à mon parcours, je me dirais que ce problème-là n'existe plus. D'accord? Mais c'est pas vrai. C'est complètement faux. D'abord, les nouvelles générations qui viennent à la foi n'ont pas de culture biblique, n'ont pas de connaissances bibliques. Et dans le milieu évangélique en général, il y a à la fois beaucoup plus d'enseignements solides. Par exemple, tout à l'heure, on va voir Ed Welch qui va enseigner. Maintenant, on a du counseling qui est plus simplement une approche intégrationniste où on prend des concepts de la psychologie séculière, puis on fait juste comme les christianiser en leur attachant quelques versets. Non, on a développé une bonne théologie biblique du counseling, une bonne approche biblique du counseling. Donc, il y a une profondeur maintenant, et puis il y a une doctrine, un enseignement très solide qui est diffusé. Mais en même temps qu'il y a cela, dans le milieu évangélique, il y a aussi une théologie très légère qui circule. Actuellement, je suis en train d'écouter un livre de Joel Osteen, « Make Every Day Your Friday », quelque chose comme ça. Peut-être que vous ne connaissez pas Joel Osteen. Le pasteur, un pasteur baptiste, la plus grosse église baptiste au monde, d'accord? Et honnêtement, la théologie qu'il y a là-dedans, je suis enregistré là, c'est n'importe quoi. Dans le sens qu'il y a du très bon, parfois il y a des vérités, souvent, il y a du très, très léger. Il y a beaucoup, beaucoup de pop psychologie qui est embarquée là-dedans. Et régulièrement, ce qu'on fait dire au texte, c'est carrément le contraire de ce que le texte est en train de dire. Ou on passe à côté de l'essentiel du message du texte. Un texte qui est là pour nous révéler la personne de Christ sert comme un petit passage de réconfort personnel où on est en train de te dire « Dieu t'aime, il est avec toi, il veut accomplir tous tes rêves pour toi. » D'accord? Et dans certains cas, il y a même un passage qui est carrément hérétique, clairement. D'accord? Mais Joel Osteen, c'est un des auteurs les plus lus dans le milieu évangélique, extrêmement populaire. Ses livres se vendent par millions, par millions, par millions. Je comprends pourquoi. Je l'écoute puis je dis, waouh, si j'avais pas de culture biblique, si j'avais pas de connaissance des Écritures, ça me ferait tellement du bien d'écouter ça. Puis par moments, ça me fait du bien, mais à d'autres moments, je suis tellement écorché, tellement offensé par certaines choses que non, ça marche pas. Puis il y a des pièges dangereux. Alors, c'est encore un besoin. Je pense que ça va toujours être un besoin d'aller vers une théologie qui est bien assise dans les Écritures. Et la beauté de ce que M. Packer fait ici, c'est qu'il veut nous amener dans une théologie qui nous conduit à vivre une expérience avec Dieu, à connaître ce Dieu-là. D'accord? Si vous allez au milieu de la page 1, j'ai cette question pour vous. Je devance un petit peu là, dans les notes affichées. Est-ce que vous diriez dans votre expérience personnelle que vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu? Ou est-ce que vous diriez dans votre expérience personnelle, et je ne vous demande pas de répondre publiquement, c'est pour vous que je pose la question, que vous avez connu Dieu? Il y a des gens sur qui on a des informations. Il y a des gens qui sont des connaissances. D'accord? Et à côté de ces gens-là, il y a nos amis. Il y a l'amour de notre vie. Ces gens-là, on les connaît. J'ai connu Esther. Dans ces moments joyeux, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de force, dans ces moments de faiblesse, j'ai connu mon épouse. D'accord? Quelle est votre expérience avec Dieu? Est-ce que tout ce que vous savez sur Dieu vous a conduit à connaître Dieu personnellement? Et certainement, si vous êtes chrétien, bien, dans une certaine mesure, au moins, vous avez connu Dieu. Vous avez connu la grâce de Dieu. Vous avez saisi l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Autrement, il n'y a pas de salut. Il faut que je saisisse ça. Il faut que mon cœur soit bouleversé par l'amour de Dieu manifesté à la croix. Autrement, je ne peux même pas me rendre à l'Évangile. Je ne peux pas me convertir. C'est ça qui me conduit à Dieu. Mais en même temps, notre expérience quotidienne, nos attitudes au quotidien, nos comportements, les émotions qui nous habitent. Dr. Welch, en fin de semaine, hier, parlait beaucoup de ça. Ce qui parle beaucoup de nous, c'est la base, c'est nos émotions. Ça dit énormément sur nous. Alors, si j'avais un stéthoscope, puis que j'allais le placer sur votre cœur pour entendre vos émotions au quotidien, est-ce que j'entendrais les palpitations d'un cœur qui a connu Dieu ou est-ce que j'entendrais les palpitations d'un cœur qui ne semble pas avoir rencontré ce Dieu-là? Parce que le cœur est constamment troublé, parce que le cœur est chargé d'inquiétude, parce que le cœur est constamment contrarié, parce que le cœur est rempli de convoitises. Et je ne suis pas en train d'induire ici que si tu es chrétien, tu ne pèches pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Dans les Écritures, on a des personnages incroyables, comme David, qui avait connu Dieu. Lorsqu'on lit les psaumes, nous savons que David a connu Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez lu les psaumes, vous savez que David a connu Dieu. Pourtant, c'est un des pires pécheurs de la Bible. C'est abominable ce que cet homme-là a fait. Peu d'entre nous se rendraient jusque-là, d'accord, pour commettre vraiment ces actes-là. Mais David avait connu Dieu. Et ça, c'est clair dans son expérience. Et même lorsqu'il tombe, lorsqu'il chute, lorsqu'il pêche, la suite nous révèle qu'il a connu Dieu. Jésus, évidemment, connaissait Dieu. Paul connaissait Dieu. Et cette connaissance que ces gens-là avaient de Dieu faisait d'eux des êtres à part. Ça faisait d'eux des personnes avec qui tu as le goût d'aller prendre un repas, t'asseoir. Ceux qui étaient ici à la conférence hier seraient tous prêts à témoigner que Ed Welch a connu Dieu. Lorsqu'il commence à parler, tu as juste le goût de dire « Prends-moi dans tes bras. Fais-moi un gros câlin. Là. Réconforte-moi. Parle-moi de Dieu encore. » Parce qu'il a connu Dieu. Et pourtant, à travers bien des choses qu'il a partagées, il ne s'est pas montré comme un homme parfait, sans péché, au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Pas du tout, avec beaucoup d'humilité, justement. Il nous a montré qu'il connaissait Dieu. Est-ce que vous avez connu Dieu ou est-ce qu'on vous a appris beaucoup de choses sur Dieu? Certainement, si vous êtes chrétien, vous l'avez connu, mais votre quotidien, qu'est-ce qu'il révèle, lui? Et donc, c'est le but, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce matériel-là. La première fois, c'est la raison pour laquelle je suis super content de revenir encore dans ce matériel-là. C'est parce qu'on veut aller vers cette expérience-là. Dans la vision qu'on vous a présentée dimanche dernier pour l'Assemblée, dans l'énoncé de vision, voici ce qu'on déclare. Nous voulons devenir, par la grâce de Dieu, une Église centrée sur l'Évangile, une famille qui marche tout près de Dieu. Une famille qui marche tout près de Dieu. Mais lorsqu'on a choisi de formuler ça comme ça, c'est ça qu'on avait à l'esprit. On veut devenir une famille qui connaît tellement son Dieu qu'elle est bien dans la présence de Dieu, à chercher quotidiennement la plénitude de l'Esprit, qui est en dialogue constant puis qui est en train de dire, « Seigneur, tu montres des choses dont tu veux que je me repente, puis voici, Seigneur, j'y vais, je me repens. Seigneur, il y a une épreuve qui est devant moi. Mon réflexe grandissant, c'est de me tourner vers toi, de crier à toi, d'aller chercher ton secours, Seigneur. » Et donc, on veut devenir cette Église qui marche tout près de Dieu. On veut le faire pour la gloire de Dieu, on veut le faire pour le bien de notre cœur, mais on veut le faire aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que lorsque des gens qui vivent comme des orphelins sur cette terre, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce Dieu, rencontrent quelqu'un qui a connu Dieu, écoutez, vous avez des gens autour de vous que vous connaissez puis qui vous viennent à l'esprit. Si je dis qui autour de vous, vous diriez lui, il a connu Dieu. Et pensez au bien que ça vous fait lorsque vous asseyez avec ces gens-là. Imaginez un instant quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu et qui va dans la vie comme un orphelin depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans et qui rencontre quelqu'un qui a connu Dieu. Cette personne-là va dire, parle-moi de ce Dieu-là. Peut-être pas la première fois, mais éventuellement, elle va dire, regarde, je sais qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas là en moi. Alors que par le trouble de nos cœurs, par les colères qui nous animent, les convoitises qui sont là, on manifeste au monde une vie si peu différente. Pourquoi est-ce qu'il déciderait d'être intéressé à notre Dieu si tout ce qu'on a à offrir, c'est « Écoute, ça ne paraît pas dans ma vie, mais crois-moi, il y a un enfer de l'autre bord. Puis tu es mieux de croire en Jésus parce que tu vas griller longtemps. » Alors, on veut grandir ensemble puis on veut connaître notre Dieu. Et Plusieurs d'entre vous, je vous regarde, puis je sais que vous avez connu Dieu. Mais on veut plus encore. On veut plus encore. Je veux que mon épouse dise, Yannick, en 2014, tu as connu Dieu. Parce que je le vis. Je le vis à la maison à tous les jours. Et c'est ça qu'on veut. Le but du cours, voici comment je l'ai formulé. Conduire plusieurs à connaître leur Dieu comme ils ne l'ont jamais connu et en conduire quelques-uns à connaître un Dieu qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, vous ne seriez pas à la mauvaise place si vous étiez ici et vous disiez, mais je ne suis même pas sûr encore que je suis chrétien, d'accord? Vous pourriez être dans le bon cours parce qu'on va quand même voir des éléments très essentiels sur la personne de Dieu. Si j'avais à vous conseiller, je vous dirais d'aller dans le cours La foi chrétienne expliquée. Mais si vous dites, je l'ai fait puis je ne suis pas sûr de saisir vraiment encore qui est Christ, vous êtes à la bonne place, d'accord? Vous êtes à la bonne place. Comment on va utiliser le livre? Alors là, je dois faire un petit sondage maison. Évidemment, c'est un livre, d'accord? Vous n'êtes pas tenu de faire la lecture du livre pour suivre le cours. Je vais travailler de manière un petit peu autonome par rapport au livre, mais c'est un classique. Puis moi, je ne suis pas un classique, d'accord? Alors, je ne pourrais pas vous offrir ce que le classique va vous offrir. Ça, c'est certain. Je le lis, puis mon combat cette semaine, c'était de dire, ben, je vais leur lire. C'est ça que je vais faire dimanche matin, je vais leur faire la lecture. Ça va être plus édifiant que tout ce que j'aurais à dire, d'accord? Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne vais pas juste vous faire des citations tout le long. Alors, moi, je vais vous encourager quand même à mettre la main là-dessus et puis à le lire. C'est un livre que vous voulez dans votre bibliothèque de toute manière, je vous l'assure. Juste par curiosité, combien d'entre vous avez déjà lu Connaître Dieu? Est-ce qu'il y en a? OK. Quand tu ne te rappelles pas si tu l'as lu, c'est parce qu'il faut que tu le relises. C'est sûr, sûr, sûr. Knowing God, Connaître Dieu, de G.I. Packer. Alors, vous avez aimé la lecture? C'était une bénédiction? Vous avez besoin de connaître plus Dieu, c'est ça? C'est bon, ça, c'est bon. Alors, dans le fond, je dois faire une main levée parce qu'on peut l'avoir escompté comme de 15-20%. Là, je suis pas sûr du détail. Puis là, je vais vous dire un peu n'importe quoi parce que dépendamment du nombre, ça va varier entre 20 et 30 $. OK? C'est en bas de 30 $, là, mais c'est 25 $ et moins qui va nous coûter. Mais peut-être que ça va descendre à 20 $ aussi. Puis on pouvait pas, c'est une vente ferme, alors on pouvait pas simplement en commander 30 puis rester pris avec 15. Alors, si on dit que le livre est 25 $, qui veut qu'on lui commande ce livre-là? Juste lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Les autres, vous allez nous suivre, soit sans lire le livre, soit que vous l'avez déjà. C'est ça? Ça va? OK. Fait qu'on va en commander un petit peu plus, et puis on en aura quelques-uns en réserve. C'est bon. Soit dit en passant, si vous voulez vous garrocher, comme on dit, bien, j'en ai une autre copie à prêter. OK, donc c'est ça, je vais travailler indépendamment du livre en même temps. L'autre chose que je veux mentionner aussi, j'apprécierais d'avoir votre un petit peu de feedback de votre part. Puis gênez-vous pas, si vous avez l'impression pour vous, à la mesure de vos connaissances, vous dites, c'est intéressant Yannick, tu t'adresses à notre cœur, mais sur le plan des connaissances, j'ai pas l'impression d'aller chercher plus. Ben venez me lancer un défi, là, OK? Puis je vais m'ajuster. S'il faut, je vais vous nourrir avec des articles en parallèle qu'on aura en copie, ceux qui veulent aller plus loin. Parce qu'on va aller couvrir les attributs de Dieu, on va aller couvrir les qualités essentielles de la personne de Dieu. Alors, si vous dites, c'est touchant, mais j'aurais aimé ça en même temps être un petit peu plus comme apprendre des nouvelles choses sur la personne de Dieu, donnez-moi un peu de rétroaction, je vais m'ajuster. Comme je vous dis, si je peux pas le faire dans le cours, je vais vous fournir des articles, pas trop longs, juste pour comme stimuler un petit peu vos neurones à aller un peu plus loin, d'accord? Alors, gênez-vous vraiment pas pour venir me faire des commentaires. D'ailleurs, j'apprécie toujours. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un courriel hier, c'était une critique négative, c'était fait avec amour, j'apprécie, d'accord? Alors, gênez-vous pas. Du moment qu'on est édifiant, vraiment, tout peut se dire si c'est fait avec grâce, avec amour, d'accord? L'auteur, James I. Packer, est né en 1926. C'est un théologien canadien qui habite dans l'Ouest canadien, d'origine britannique. Il fait partie du Low Anglican Church. Dans l'Église anglicane, on a deux parties à cette Église. Une qui est plus près des réformes protestantes avancées, si je peux dire, qui est allée davantage vers la théologie de la réforme avec une théologie du salut vraiment solide, vraiment biblique. Et puis une autre qui est plus institutionnelle, d'accord? G.I. Packer fait partie du Low Church, qui est celui qui est allé plus loin dans ses réformes sur le plan théologique. Et c'est vraiment un phare pour leur Église, mais aussi pour... pour tous les évangéliques. Ceux qui connaissaient G.I. Packer, il y a eu un moment où il a été un peu controversé. Il a signé un document comme d'association avec l'Église catholique. Et puis, il a vraiment montré une super belle attitude. Il y a quelque chose où il s'est égaré, puis il a été repris par d'autres théologiens, puis il a republié un document pour dire non, je suis désolé, il y avait quelque chose que je n'avais pas saisi dans un élément de la théologie catholique et qui attaquait des éléments fondamentaux de la Bible. Et puis, donc, il s'est corrigé publiquement à travers des écrits aussi. On rentre dans le sujet. J.I. Packer commence son livre en disant « L'ignorance de Dieu, tant l'ignorance de ses voies que celle de sa communion, est pour une grande part de la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. » J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Juste 2-3 commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là ou vous pensez que M. Packer est dans l'erreur? Des fois, je vais vous demander d'interagir ici, d'accord? Je vous le relis. Vous l'avez au milieu de la page 2. L'ignorance de Dieu, tant l'ignorance de ses voies que celle de sa communion, est pour une grande part de la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voulez-vous que je vous explique qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, là, monsieur? Oui, il est en train de dire tout simplement que ce qui produit une Église qui est faible, une Église évangélique qui est faible, c'est que les chrétiens ne connaissent pas bien les voies de Dieu, c'est-à-dire les préceptes de la parole, qu'est-ce que Dieu nous demande de vivre comme vie, et cela ne les conduit pas suffisamment à une communion avec Dieu. D'accord? D'autres vont dire, non, ce qu'on a besoin, c'est d'un réveil spirituel. D'autres vont dire, non, on a toutes ces connaissances-là, mais on vit à une époque où l'influence du monde est tellement grande, tellement puissante que c'est difficile de se retrouver dans ça. D'autres vont dire, non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de conversion dans l'Église. Il n'y a pas assez de chrétiens dans l'Église. Lui, il dit, non, c'est pas ça. C'est que la théologie, c'est de la théorie pour les gens. Et donc, ils ne connaissent pas assez de théologie et cette théologie n'est pas venue suffisamment bouleverser leur cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire à faire là-dessus? Non, on se réchauffe tantôt? Je présume que vous pensez qu'il est intelligent dans ce qu'il dit. 2 facteurs qui ont contribué à transformer ainsi l'Église. Et là, c'est des facteurs sociaux, d'accord? L'Église a été influencée par la pensée contemporaine qui fait grand cas de l'être humain, le tenant dans la plus haute estime, alors que sa vision de Dieu le confine le divin, je m'excuse, il y a une faute, de plus en plus à un rôle folklorique. Et donc, on a vu ce mouvement à travers les âges ou avec cette redéfinition de l'être humain, cette idée que l'être humain, par sa simple raison, est capable d'analyser toute chose et il n'y a que ce qui est compréhensible pour l'homme qui est certain. D'accord? Le mystère, une idée d'un Dieu mystérieux qui se révèle sans que je puisse le comprendre, mais ça fait de moins en moins de sens dans notre société parce qu'on se dit « n'est vrai que ce que je peux comprendre avec ma tête ». Il y a juste ça qui est vrai. N'est vrai que ce que la science peut m'expliquer, que je peux saisir. Le reste, c'est des illusions que les hommes se sont données pour donner un sens à leur vie. Dieu n'existe pas, je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le comprendre. D'accord? Et progressivement, ce que ça fait, c'est que l'être humain, en général, est dans sa vision de l'humanité, a placé l'homme au centre. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre. Et ça, on le voit partout. Hein? On le voit dans notre société. Dieu, par exemple, une des manifestations les plus pratico-pratiques de ça, c'est que dans la pensée populaire, Dieu, c'est un guichet automatique. Tu sais? Quand je souffrirai assez, quand j'aurai vraiment besoin de lui, je vais faire le 911 Dieu, puis il va venir à mon secours. D'accord? Mais qu'est-ce que ça dit, ça, sur l'homme et sur Dieu? Qui est au centre de l'univers dans cette vision-là? C'est l'être humain. Dieu, c'est un serviteur. Vous comprenez? Dieu, c'est le service d'urgence. Service d'urgence. Moi, je ne vis pas pour les ambulanciers. Hein? On s'entend? Les ambulanciers vivent pour moi. Vous comprenez? Les ambulanciers sont là pour que moi, je reste en vie. Quand je me lève le matin, je me dis pas, est-ce que mes ambulanciers ont bien mangé? Non, je les appelle quand j'en ai besoin. D'accord? Mais c'est la même chose avec Dieu. Et qu'est-ce qui permet d'avoir cette vision-là de Dieu? C'est que l'homme est au centre. Dieu n'est pas au centre. Si je me lève le matin, Puis je dis, moi, je ne suis qu'une infime particule dans l'univers et l'air que je respire, c'est de l'air emprunté à un créateur. Wow! On vient de changer pas mal d'affaires, là. Comprenez? Seigneur, merci pour l'oxygène. La prochaine, c'est encore toi qui me la donne. Là, c'est Dieu qui est au centre. D'accord? Mais progressivement, notre société, avec cette vision humaniste de l'homme qui dit « Tout ce qui est vrai, c'est ce que je peux comprendre, donc il n'y a rien de vrai à l'extérieur de moi, ou sinon c'est juste des mystères, c'est pas important », bien l'homme se place au centre de tout. Et puis Dieu devient une espèce de fournisseur de services, d'accord, progressivement. Donc, dans le meilleur des cas, je serai chrétien si je sens vraiment que j'ai besoin de ce service-là. Si j'en ai pas besoin, ben je m'abonnerai à un autre service qui est le yoga ou n'importe quoi. D'accord? Ou le capitalisme, si c'est ça qui me rend heureux. C'est n'importe quoi. L'amour, le sexe. Mais ce sont des options, dans le fond. Puis lorsque les gens viennent te voir, puis ils disent, ben dans le fond, tu avais besoin d'une béquille, puis regarde, la nouvelle version de ça, c'est de dire, si ça te rend heureux, je suis vraiment content pour toi. Mais tu es allé dans le department store, comme tout le monde, puis moi, ce que j'ai choisi, c'est l'amour, le bonheur, puis l'argent. Toi, tu as choisi Dieu. Si ça te donne ton fixe pour être heureux, c'est parfait, c'est des options, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, cette pensée-là est là dans toute la culture. Et ce que Packer dit, c'est que ça, c'est venu transformer l'Église aussi. Tout à l'heure, je faisais référence à Joel Osteen. Vous risquez de m'entendre parler un petit peu de lui parce que, c'est ça, je l'écoute comme une demi-heure tous les matins pour passer à travers son livre. Puis quand je suis plus capable, je change de livre. Mais c'est ça. Joel Osteen fait partie de ces théologiens-là qui enseignent la théologie de la prospérité. Puis quand vous entendez parler de la théologie de la prospérité, au départ, l'idée qui nous vient, c'est le « health and wealth theology » qui dit « sers Dieu, aime Dieu, tu vas être en santé, puis tu vas être riche », d'accord? Mais c'est beaucoup plus subtil puis beaucoup plus profond que ça, la théologie de la prospérité. En fin de compte, ce que la théologie de la prospérité dit, c'est « Dieu est extraordinaire. Dieu, c'est Dieu, puis tu ne veux pas te déplacer Dieu de sa place. Dieu est extraordinaire. Mais toi aussi, tu es extraordinaire. Et ce qui rendrait vraiment, vraiment heureux Dieu, c'est de pouvoir t'accompagner pour que tu accomplisses toute ta destinée, tous les rêves qu'il a placés sur ton cœur. » Je suis à la fois extrêmement loin de la Bible, puis pas si loin que ça. D'accord? Puis là, si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, il y a des versets qui peuvent venir dans votre esprit. David dit nous sommes, qu'il est une créature merveilleuse, n'est-ce pas? Mais dans ce que je viens d'exprimer là, Dieu est là, puis Dieu finalement est un peu attristé que Yves ne devienne pas le super Yves que Dieu aurait voulu que Yves devienne. Puis dans le fond, tout ce que Dieu attend, c'est que Yves ait puisé dans cette ressource-là qui est Dieu, qui veut juste l'accompagner pour qu'il devienne tout ce qu'il doit devenir, parce que c'est ça qui va glorifier Dieu. Je suis certain qu'il y en a certains ici qui se disent, ben ouais, c'est bon, ça va, c'est quoi le problème? Le problème fondamental, c'est que c'est pas ça. Parce que ça se peut que Dieu ait voulu, moi, là, que je meure dans 3 semaines d'un cancer. Puis qu'à travers ma mort, je le glorifie dans mes attitudes. Ça se peut que Dieu ait voulu, moi, que je naisse par hasard dans un pays où les probabilités que je devienne riche sont très, très faibles. Donc, c'était quoi les rêves de Dieu pour moi lorsqu'il m'a fait naître là? Il a manqué une coche là, quelque part. Mais non, c'est ça. Le rêve de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est ça, le rêve de Dieu. C'est que l'être humain comprenne qu'il est là pour le glorifier. C'est ça que Dieu a sur son cœur. Et notre bonheur se trouve à chercher sa gloire, voyez-vous? Alors, toute cette théologie-là de la prospérité, est-ce que c'est clair pour vous la théologie de la prospérité? Puis est-ce que vous comprenez la nuance entre juste une théologie qui dit « saisis la saison de semer, puis ton compte de banque va se remplir », qui est comme une version vraiment simpliste de la théologie de la prospérité, puis celle qui est plutôt de dire « Dieu t'aime, Dieu veut juste te voir accomplir tes rêves, investis en lui, il va investir en toi ». OK, puis je dis c'est comme ça là, c'est littéralement comme ça que c'est dit. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça là? Si vous dites Yannick, je veux pas avoir de l'air fou, mais je trouve pas ça si mauvais que ça. Allez-y, c'est le temps. C'est assez clair pour vous? Oui, non? Ou c'est juste un café qui vous manque? La prochaine fois on vous fournit le café, un fixe. Moi je suis déjà à mon 3e espresso, d'accord? Ça m'a pris ça pour que mes neurones allument ce matin. Ça va? Good. Mais gênez-vous pas, d'accord? Si vous dites, il y en a qui sont intéressants, mais je ne serais pas capable de répéter ce que tu as dit là parce que je pense que dans le fond, des fois, je me lève le matin et c'est ça que je crois. Soyez pas mal à l'aise, de grâce. Venez nous voir pour poser des questions. On va vous diriger vers des bonnes lectures. Puis si vous dites, ouais, mais Joel Austin, moi, il me fait du bien de temps en temps. Mais c'est correct, on va prendre le temps de s'asseoir avec vous parce que je l'écoute. Puis pendant deux paragraphes, il me fait du bien, moi aussi. Juste un instant, je vais venir à toi, Marie. Oui. Oui. OK, donc tu dis, lorsque les gens se pointent dans ces églises-là, parfois il y a vraiment une quête de Dieu, une recherche de Dieu. Oui. Oui. C'est ça. Des fois, les gens vont dans ces milieux-là avec une véritable recherche de Dieu, puis les prédicateurs donnent quelque chose qui est comme tellement tangible. Écoutez, c'est sûr que si je vous disais le dimanche matin, au lieu de vous dire, comme John Piper, « Don't waste your cancer », tu sais, gaspille pas ton cancer, Dieu veut t'apprendre à l'aimer plus à travers ton cancer. Si je te disais, non, ça va aller mieux, Dieu va te guérir. Mais je pense que sur le premier sermon, vous préféreriez peut-être ça. Tu sais. Et c'est là qu'ils vont chercher les gens, c'est avec ça. Je suis même pas convaincu que tout le monde est mal intentionné dans ça, mais quand je lis un auteur comme celui-là, je me dis, quelle responsabilité d'être un docteur de la parole. Tu veux pas faire ça si tu n'es pas appelé à faire ça parce que tu peux amener du monde tellement loin du Seigneur. Ce n'est pas tout mauvais ce qu'il a décrit dans son livre. Il y a plusieurs éléments positifs. Quand je vais faire ma critique, je vais prendre le temps de souligner les éléments positifs. Mais à un certain moment, là, on est rendu dans des hérésies. Là. Ça, on est rendu loin. Oui, Marie. Oui. Je vais répéter pour les autres. Vas-y. Oui, c'est ça. Fait que tout à fait. Ce que Marie soulève, elle dit, c'est confondant parce que Dieu, il y a des passages dans Ésaïe où clairement Dieu veut qu'on guérisse. Dieu veut nous guérir de nos maladies. C'est clair dans le passage, tout ça. Puis en même temps, Dieu est souverain. Alors, est-ce que Dieu nous appelle juste à rester malade toute notre vie? Non. Non, définitivement pas. Je vais venir à toi, ce sera pas long. Non, définitivement pas. Mais clairement, dans les Écritures, Dieu ne promet pas à tout le monde qu'on va être guéri. Et ce qui est le plus important, c'est Christ qu'il veut former en nous. Puis c'est ça le problème avec la théologie de la prospérité, c'est qu'on passe à côté de cet élément-là essentiel. Ce que Dieu veut faire absolument dans le cœur de tous les croyants, c'est former Christ en nous. Dans certains cas, il va faire des miracles, il va nous guérir physiquement de nos maladies, il va nous sortir de situations financières périlleuses. Dans d'autres cas, et là vous avez juste à lire le livre des Actes, vous vous dites, mais pourquoi Jacques est parti martyr si tôt? C'est quoi la joke? Mais moi, j'ai assisté au service funéraire de Robert Beauchamp il y a deux semaines. 54 ans, récite l'épître aux Éphésiens par cœur. Je vous le dis à vous, là, je ne l'ai pas écrit sur Facebook parce que je trouvais que c'était trop pathétique, là. Mais j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu me chercher puis deux, trois autres que je connais, au lieu de venir le chercher lui? Ça, c'était un pasteur incroyable. Je ne comprends pas. T'sais? Mais on se fie à la souveraineté de Dieu. Et ce que Dieu veut faire premièrement, c'est qu'il veut former Christ en nous. Dans certains cas, il va nous guérir de nos maladies. Dans d'autres cas, c'est à travers la maladie qu'il va former Christ en nous. Et donc, oui, j'accepte de vivre avec ce mystère-là. L'Évangile de la prospérité nous donne des formules simplistes souvent qui comme essaient de régler toutes ces équations-là. Et malheureusement, puis c'est ça ma grande tristesse quand je lis le livre, c'est que les ressources les plus puissantes qu'il y a dans la parole de Dieu se trouvent à accepter le mystère de Dieu parce que j'ai été convaincu de son amour à la croix. C'est là que se trouvent toutes les ressources les plus puissantes. L'Évangile de la prospérité ne peut pas offrir ça. Elle doit passer à côté de ça, juste à côté de ça. Et donc, il y a des moments où je vois, il va amener un remède à une vraie souffrance dans la vie des gens, puis il passe à côté du meilleur remède qu'il y a dans la Bible. Juste parce qu'il y a ça comme solution. Oui. Simon, hein, c'est ça? Super bonne question. Je vais répondre à ta question, puis après ça, je continue, mais excellente question. Simon nous cite le passage dans Jérémie où Dieu dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur parce qu'il veut nous conduire justement dans un bonheur. Puis ce sont ces passages-là souvent qui sont cités. Mais je vous dirais l'élément qui est super important de comprendre, puis c'est pour ça que la théologie, c'est pour ça qu'une bonne connaissance de toute la Bible est super importante, puis il faut lire la Bible régulièrement d'un couvert à l'autre, d'accord? Lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, là j'emploie des termes, on est dans l'Ancien Testament, on est dans une théocratie, c'est-à-dire que Dieu va régner au milieu de son peuple, Dieu va être présent là, et il y a beaucoup plus de promesses de prospérité sur terre, dans cette terre-là, parce que physiquement, en étant là, ce peuple-là devait refléter la personne de Dieu. Christ revient puis il dit non, vous allez être des lumières partout individuellement et vous allez l'être à mon image, à l'image du serviteur souffrant. Et donc, les promesses de prospérité, les promesses d'abondance, les promesses de paix, souvent dans le Nouveau Testament, nous amènent à pointer les yeux vers le retour de Christ. À plusieurs reprises, Joel Osteen, je pense que c'est dans Colossiens, il cite un verset qui dit « Regardez en haut ». Mais le passage qu'il est en train de dire, c'est « Regardez en haut à Christ, sous-entendant son retour ». Lui, il se sert de ça pour dire « Arrête de voir petit ». Lève les yeux puis regarde en haut. Voyez-vous comment on a détourné le texte de son élément fondamental? Alors souvent dans le Nouveau Testament, ces promesses-là de prospérité, on les trouve de deux manières. Sur la terre ici-bas, c'est dans la famille de Dieu que tu les trouves fondamentalement. Il n'y a personne qui a perdu sa maison, sa famille, vous vous rappelez les paroles du Seigneur, et qui n'en trouvera pas mille fois plus dans la famille de Dieu. Donc, c'est pour ça que dans notre énoncé de vision, on dit, ici, comme expérience de famille, on doit grandir mille fois. Parce que ces promesses d'abondance-là, c'est premièrement des promesses d'amour, d'accueil, de soins, d'être là les uns pour les autres dans la famille de Dieu, dans le Nouveau Testament, davantage que des promesses de prospérité financière individuelle. D'accord? C'était ça aussi, dans une certaine mesure, dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu devait être une famille tellement belle qu'un étranger qui arrivait était accueilli là et on l'aidait à prospérer financièrement. On lui laissait un lopin de terre, de l'espace, on l'aidait à s'installer, on partageait pour qu'il sorte justement de la misère où il était. Donc, il y avait cette idée-là comme ça dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est particulièrement dans chacune des églises locales. Donc, promesse de prospérité dans le Nouveau Testament, c'est tu rencontres la famille de Dieu locale, tu viens d'entrer dans la prospérité de Dieu. Il y a des gens qui t'accueillent, qui sont là pour prendre soin de toi. Et donc, l'Église doit grandir énormément dans ce sens-là. Avec tous les dangers qu'il y a d'avoir des abuseurs, des tricheurs, des voleurs qui découvrent ces gens, qui aiment tout ça. Mais Jésus nous a donné le remède. Quand ils nous volent, on leur en donne un peu plus. C'est tout. D'accord? C'est ça la vérité. Et l'autre promesse de prospérité qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est que notre prospérité à nous, c'est au retour de Christ. Parce qu'on est des serviteurs souffrants entre-temps. Est-ce que ça éclaire un peu, Simon? Oui? OK. OK, on s'est un petit peu emporté sur la théologie de la prospérité. Ceux qui ont déjà assisté à mon cours, vous savez que c'est un défaut que j'ai, d'accord? Deuxième pensée, on est au bas de la page 2. La pensée chrétienne a été profondément affectée par le scepticisme moderne. Le naturalisme, la Renaissance, puis la pensée moderne ont conduit l'Occident à rejeter la révélation de Dieu. Cette pensée a évolué jusqu'à conduire l'homme moderne à remettre en question la notion même de vérité, s'appuyant uniquement sur la raison humaine et ce qu'elle peut apprendre de la science. C'est simplement l'idée qu'on ne croit plus dans les miracles, on ne croit plus dans un Dieu mystérieux. Tout ce qui ne peut pas être expliqué par ma raison me rend sceptique, je vais douter de ces choses-là. Et cela a affecté l'Église moderne à un point tel qu'il y a des théologiens qui se sont appliqués à dire, bon, OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la Bible. On part avec une prémisse, avec un acquis pour commencer. Tous les miracles, on s'entend, c'est des contes de grand-mère. Fait qu'on enlève tous les miracles de la Bible, puis là, on va voir qu'est-ce qui nous reste après ça. Puis là, ils sont allés vers tout ce qu'ils estimaient pas réaliste à vue humaine, selon leur intelligence. Puis après ça, ils ont dit, bon, ben voici, ça doit être la révélation de Dieu, c'est ce qui nous reste, d'accord? Ils ont fait ça, par exemple, avec le Jésus historique. Alors, il y a le Jésus des quatre évangiles. Maintenant, on va aller découvrir le vrai Jésus, parce que ça, c'est un espèce de traité politique écrit par des disciples qui voulaient juste dire « Waouh, il est incroyable. Regardez tous les miracles qu'il a faits. » Mais les miracles, ça se peut pas. Donc, il n'y a pas de miracle. On va épurer les évangiles. On va enlever, on va prendre des ciseaux, découper toutes les parties où il y a des choses comme ça qui sont pas acceptables dans notre tête. Puis après ça, on va se retrouver avec le Jésus historique. Là, on a quatre évangiles. On va prendre toutes les comparaisons où il semble avoir des contradictions apparentes. Ça aussi, ça doit être faux. On va arriver avec le Jésus historique. Finalement, il y a quelqu'un qui a probablement existé il y a 2000 ans, probablement en Israël, qui s'est peut-être appelé Jésus, puis peut-être qu'il est mort sur une croix. D'accord? C'est à peu près ce que vous avez pour fonder votre foi. Mais cela a affecté l'Église énormément. Si vous êtes à l'université, puis vous avez la brillante idée d'être à l'UQAM, à l'UDEM, puis vous dites « Ah, il y a un département de théologie, j'ai des cours au choix, je pense que je vais aller faire un cours en théologie. » J'espère que vous êtes prêts à commencer à jeûner cette session-là. D'accord? Parce que c'est au péril de votre foi que vous allez aller faire ces cours-là. Le professeur qui est en avant maîtrise le grec, maîtrise toutes ces choses-là, mais il y a une prémisse dans sa tête. Tout ce qui est miraculeux, ça n'existe pas. D'accord? Dieu s'explique avec une équation mathématique où Dieu n'existe pas. Mais je veux dire, même en philosophie, ça ne marche pas. À partir du moment où je dis que c'est Dieu, ça ne se peut pas qu'il y ait une équation mathématique qui l'explique. Autrement, il n'est pas Dieu. L'infini ne s'explique pas comme ça, c'est pas vrai, d'accord? L'absolu ne s'explique pas comme ça, mais c'est ça. Alors, toute la théologie, quand vous pensez par exemple à la théologie catholique, il y a deux théologies catholiques. Il y a celle que vous trouvez dans les écrits de l'Église catholique, qui est souvent encore très, très conservatrice. C'est les catholiques sont en, je vais utiliser un mauvais mot, sont pas contents que les papes soient aussi conservateurs, d'accord? Parce que dans leurs écrits, ils sont très conservateurs. Les derniers papes qu'on a eus à plusieurs égards, par exemple dans l'éthique chrétienne, tu sais, dans ce qui est bien et ce qui est mal, souvent sont d'accord avec nous dans plein de domaines, très, très, très conservateurs. Mais ça, c'est la théologie conservatrice qu'on trouve dans les écrits de l'Église. Quand vous allez dans un département de théologie, là, vous êtes dans le milieu universitaire. Celle-là est complètement différente. Puis ces deux théologies-là dialoguent un petit peu entre elles, d'accord? Mais si vous allez rencontrer un prêtre, ben probablement qu'il croit dans certains miracles, puis tout ça, tu sais. Et donc ça, c'est rentré dans toute la pensée populaire aussi. Et ça, c'est venu affecter l'Église, d'accord? L'Église a besoin de pouvoir tout expliquer, tout comprendre sur Dieu. Et des fois, ça m'arrive d'avoir des dialogues avec même des gens de l'Assemblée ici. Je leur dis, regarde, la Bible dit ça, puis la Bible dit ça. Les deux sont clairs, j'arrive pas à les mettre parfaitement ensemble. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ça? Parce qu'on essaie quand même de comprendre Dieu. On peut-tu juste prendre cet acquis-là ensemble? Puis la personne s'en va troublée dans son cœur parce qu'elle n'arrive pas à comprendre Dieu parfaitement. Comprenez? Bien, j'ai là le résultat de ces deux éléments-là. L'homme est plus au centre que la personne de Dieu. Et deuxièmement, il y a un scepticisme qui s'est installé. Tout ce que je ne peux pas expliquer, j'en doute. D'accord? Et la personne a de la difficulté à vivre avec ces mystères-là. Maintenant, ça a des répercussions non seulement dans sa foi, ça a des répercussions dans son quotidien. Parce que moi, je vous dis que notre vie est composée de plus de mystères que de choses claires. Au quotidien, là, il y en a des millions de mystères. Pourquoi, Dieu, tu permets ça dans ma vie? Mais souvent, la seule bonne réponse, c'est parce que Dieu. Tu as-tu une autre question? Je veux dire, c'est souvent ça, non? C'est pas ça dans votre vie à vous? C'est Dieu, c'est lui le boss, puis je connais son amour, fait que... C'est cool, Seigneur. Si ça te tente de me faire un clin d'œil, de m'aider à comprendre dans une semaine, ce serait le fun. Mais autrement, c'est correct. C'est toi le patron, tu sais. Alors, ça, c'est venu affecter l'Église, ces deux éléments-là. D'accord? Il y a plus de termes un petit peu de philo, là, ce matin, un peu théorique. Gênez-vous pas aussi pour venir me voir et me dire, Yannick, il y a 75 termes d'employés ce matin que je comprenais pas. Je vais m'ajuster, mais je pense que dans les prochaines semaines, ça va être un petit peu moins, c'est ça, des termes de philo. Page 3. On a dit que le sujet qu'il convenait à l'humanité d'étudier, c'était l'homme. Packer dit « Je ne m'opposerai pas à cette affirmation, mais je pense qu'il serait tout aussi vrai de dire que le sujet qu'il convient aux élus d'étudier, c'est Dieu. » D'accord? Et donc, moi, je veux vous mettre au défi. Si dans vos lectures, si dans vos réflexions, si dans ce que vous écoutez à la télévision, ce que vous écoutez à la radio, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologie pour vous aider à vous comprendre vous-même. Je veux vous mettre au défi de consacrer quand même plus de temps à essayer de connaître Dieu dans vos lectures, dans votre emploi du temps, tout ça, d'accord? C'est normal pour les gens qui ne connaissent pas Dieu de faire comme sujet d'étude principale eux-mêmes. Ils veulent essayer de se comprendre pour comprendre pourquoi ils agissent comme ça et où ils veulent aller dans la vie. Je veux dire, allumer la télé, lisez le journal, c'est plein, 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 plein. Aller sur le web, c'est toutes des choses pour essayer de nous comprendre nous-mêmes. Calvin a dit, c'est impossible, Jean Calvin a dit, c'est impossible à l'homme de se comprendre lui-même tant qu'il n'a pas commencé par voir Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Maintenant, je comprends que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu commence par lui-même. Il ne sait pas où aller ailleurs. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de repère. Mais pour nous, comme chrétiens, dans le temps que vous consacrez à lire des bouquins, puis j'en lis, là, si vous voyez mes livres, là, je lis des livres d'organisation du travail, sur la santé, sur l'exercice. Je lis toutes sortes de bouquins, d'accord, où je ne suis pas toujours en train de lire des trucs bibliques puis des trucs chrétiens. Mais la majorité de ce qui vient nourrir mes pensées me parle de Dieu plus que de l'homme. D'accord? Et ça, je pense que c'est super important. L'étude de Dieu comme source d'humilité, d'exaltation et de consolation. Ça, c'est le défi que moi, je me donne à travers ce cours-là. C'est de vous conduire à un endroit où, dans votre expérience personnelle, apprendre de la théologie va avoir un impact, ces trois éléments-là dans votre vie. Vous allez grandir en humilité. Vous allez être de plus en plus exalté par la personne de Dieu. Ça va avoir un impact sur votre quotidien et ça va apporter de la consolation dans votre vie. La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puissent jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense qu'il appelle son Père. Et c'est ça qui devrait nous apporter de la consolation. Je passe par-dessus la citation de Spurgeon. Je vais juste vous donner une illustration parce qu'ensuite, je pose la question, l'étude de Dieu est-elle pertinente pour notre époque? Cette semaine, Esther a attrapé une entrevue à la radio de Radio-Canada, puis je pense que c'était à l'émission de Catherine Perrin. Puis il y avait un spécialiste qui était là pour parler du problème du suicide chez les jeunes hommes. Et puis le spécialiste disait que le nouveau problème que ces gens-là rencontrent lorsqu'ils veulent aider des jeunes hommes à abandonner des pensées suicidaires, tout ça, c'est que de plus en plus, pour les jeunes hommes, spécialement chez les hommes, dans leur vision de la vie, c'est de plus en plus une option. C'est pas comme quelque chose qui pourrait t'attraper à un moment donné dans un moment de désarroi puis de détresse puis que tu pourrais faire dans un moment irréfléchi. Non, ça pourrait être l'aboutissement d'une réflexion sérieuse qui dit, ben moi, la vie, non. J'ai pris le temps de peser les pour et les contre, j'ai pris le temps de réfléchir là-dessus, puis sais-tu, mon projet à moi, c'est la mort, parce que la vie ne m'intéresse pas. Et donc, ce spécialiste-là était là, puis il disait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut convaincre ces jeunes gens-là que ce n'est pas une option acceptable. C'est inacceptable comme option. Puis je jasais avec Esther, puis on discutait, puis on concluait ensemble que c'est un défi énorme lorsque tu as la pensée moderne. Parce que la pensée moderne, elle dit quoi? Elle dit, Dieu n'existe pas, l'être humain est un animal qui vit et meurt. Et si vous êtes familier un petit peu avec la philosophie, l'existentialisme, c'est cette idée suivante, c'est que la vie est absurde et l'homme, par sa raison, doit trouver un sens à sa vie. D'accord? On naît et meurt, on laisse peu de traces dans l'histoire de l'humanité. Y a rien de divin en nous, il n'y a rien de divin ailleurs. On n'a pas été créé avec une intention, il n'y a pas de créateur. On est juste le fruit d'un accident. Et donc, l'existentialisme de Sartre, par exemple, c'est la théorie de l'absurdité. Donc, la vie est absurde en soi. C'est un peu comme une plante. Vous regardez une plante, elle est belle, mais année à mort, ça finit là. L'oiseau, il mange pour faire quoi? Pour chanter, jusqu'à temps qu'un chat le mange. Mais ça mène à quoi, cette affaire-là? D'accord? Alors ça, c'est l'existence humaine sans Dieu. Mais ce qu'on jasait à ce temps-là, moi, je disais, chérie, c'est parce qu'ils l'ont semé, ça. Ils arrivent exactement à l'endroit logique où finalement, si la vie est absurde, c'est à toi de décider quand est-ce que tu quittes l'absurdité. C'est tout, là. C'est logique. Ils n'ont rien pour essayer de reconstruire quelque chose. D'accord? Et ça, c'est la pensée moderne. Mais non, c'est pertinent pour nous de retourner vers les Écritures puis dire, non, je veux connaître le Créateur. Le sens premier de ma vie ne vient pas du fait que je suis heureux, je suis en santé, ça va bien. Le sens premier de ma vie, c'est que j'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé pour refléter Dieu et je vais rendre des comptes à ce Créateur-là un jour. Il m'aime, il est là derrière mon existence, il m'a conçu avant même que j'existe et je vais me présenter devant lui un jour. C'est ça le sens premier de ma vie qui dépasse, qui va par-dessus, d'accord? Qui transcende toutes les souffrances qu'on peut avoir dans la vie. Mais eux, ils n'ont plus ce repère-là. Alors, est-ce que c'est pertinent pour nous de replonger là? Oui, c'est définitivement pertinent. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Oui. Alors, je vous invite à terminer les lectures. Est-ce que vous avez manqué de notes? Ça va? Tout le monde a pu avoir une copie? Tu viendras chercher la mienne, s'il te plaît, Jasmine. Donc, je vous demande de compléter la lecture des notes cette semaine. C'était l'introduction. On devrait être capable de couvrir le chapitre 1, le chapitre 2. Si vous avez déjà le livre, vous voulez vous mettre à jour, lisez donc le chapitre 1 et 2 cette semaine. En espérant que la semaine prochaine, on va avoir 10 copies pour vous, d'accord? Et donc, on pourra se les procurer, on pourra vous les remettre. Autrement, simplement lire les notes. On va terminer avec un mot de prière. Encore une fois, si vous avez des commentaires, s'il y a des choses, vous dites, Yannick, arrête, je suis au cégep, c'est pas bon, ou bien non, c'est trop léger, c'est correct aussi. Venez me faire des commentaires, je vais m'adapter, d'accord? Et puis, il y a une tablette bleue en circulation, où est-ce qu'elle est rendue? Mon petit pad bleu, il est là. C'est important de marquer votre nom dessus. On prend les présences au début pour avoir une idée du nombre de personnes au début de la session. Et si vous voulez faire partie de notre liste d'envoi pour recevoir mes notes au moins 5 heures à l'avance, faut que vous marquiez votre adresse courriel là-dessus, lisiblement, puis on va vous les envoyer. Autrement, il va y avoir des copies papier. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette révélation extraordinaire qui a donné, Seigneur, il y a plus de 20 ans, un sens incroyable à ma vie et qui continue à m'alimenter quotidiennement. Par contre, Seigneur, comme tout le monde, j'ai besoin régulièrement que tu viennes éclairer mon cœur à nouveau avec ta parole, que tu viennes illuminer, Seigneur, mon cœur avec ces vérités éternelles, Seigneur, afin que mon cœur trouve sa paix, sa joie, sa consolation, ses convictions en toi, Seigneur, que je te connaisse personnellement. Je te prie, Père, pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de nous aider à venir te rencontrer à chaque semaine, venir te connaître personnellement, non seulement en t'exprimant nos besoins, nos cris du cœur, et c'est tellement important de le faire, mais une fois que tout cela est fait, aussi en s'arrêtant pour te contempler, Seigneur, et considérer que tu es le Dieu éternel et que tous les maux de l'humanité, tu les connais déjà, Seigneur, et tu es là et tu règnes, et paisiblement tu es là, au contrôle, Seigneur. Sois béni, c'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.